Bonjour, c'est Clap, vous êtes sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. Clap, l'émission hebdomadaire consacrée à l'actualité cinématographique des écrans monceaux qui ne respectent même pas les jours fériés. Avec autour des micros, Pierre Barry.
Bonjour.
Bonjour, et Michel Lafon. Cette semaine, 10 nouveautés, certaines pas très bien traitées, qui n'ont droit qu'à une séance par jour et d'autres même pas tous les jours. On va quand même parler d'Armageddon Time, de Peter Ushnok, de Charlotte, de Couleur de l'incendie, Pacifixion, Tourment sur les îles, Riposte féministe, Les Repentis, 3 nuits par semaine, Black Panther, Wakanda Forever, et Les Lendemains de Veille pour la programmation musicale. Là, j'avais l'embarras du choix cette semaine. Donc, on va commencer par un titre que l'on entend. Dans 3 nuits par semaine, ça s'appelle Utopia et c'est Goldfrapp sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
It's a strange day. No colors or shapes. No sound in my
Utopia Goldfrapp, un titre qu'on entend à deux reprises d'ailleurs dans le film Trois nuits par semaine. Mais Trois nuits par semaine, on en parlera dans la troisième partie de l'émission. Nous commençons par Armageddon Time. Armageddon Time, c'est un film qui est proposé au cinéaste et au Pâté Quinconce. Au cinéaste, tout le temps en version originale, avec deux séances par jour, et au ciné et au Pâté Quinconce, tantôt de la VO, tantôt de la VF, pour ce film de James Gray, qui dure 1h55. James Gray, c'est un réalisateur, scénariste, producteur américain né en 69. On l'a découvert en 94 avec Little Odessa, avec Tim Roth. C'est un film très intéressant d'ailleurs sur l'immigration russe et la mafia russe à New York. Ensuite, 2000, The Yards, un très très bon polar avec Joaquin Phoenix, Mark Wahlberg et Charlize Theron. 2007, La Nuit nous appartient, avec quasiment les mêmes, sauf Charlize Theron, mais Robert Duvall en plus. 2008, Two Lovers, un très beau film, une très belle histoire d'amour avec Joaquin Phoenix, Gwyneth Paltrow. J'avais moins aimé The Immigrant en 2013 avec Marion Cotillard et Jeremy Renner. Par contre, beaucoup en 2016, The Lost City of Z, avec Charles Hunnam et Tom Holland. Et en 2019, j'avais trouvé très très ésotérique Ad Astra avec Brad Pitt et Tommy Lee Jones. Bon, vas-y. Alors, Armageddon Time, de quoi est-il question? Ce n'est pas le synopsis qui va vous en dire beaucoup, mais enfin bon, c'est l'histoire très personnelle du passage à l'âge adulte d'un garçon du Queens dans les années 80, de la force de la famille et de la quête générationnelle du rêve américain. Alors, passage à l'âge adulte, ça me fait doucement rigoler parce que le gamin, il entre en sixième. Tu passes pas à l'âge adulte quand tu es en sixième, quand tu passes en cinquième, excusez-moi, mais enfin bon. Tu passes à l'adolescence, de l'enfance à l'adolescence. Bon, passons. Stéphanie Belpech, le journal du dimanche, outre le commentaire social et politique d'un pays déjà rongé à l'époque par le racisme et l'antisémitisme, on est bouleversé par ce drame intimiste qui trouve sa puissance dans sa simplicité, par la mise en scène élégante, intelligente et subtile, sans oublier la photographie magistrale de Darius Kondji. Adrien Gombeau, Les Échos, James Gray propose un récit autobiographique sur la fin de l'enfance, ben ça je préfère, dans le Queens des années 80, un film à la fois intime et puissant. Olivier Lam, Libération, dans son film le plus intime, à la fois tragédie et récit d'apprentissage, James Gray brosse un portrait saisissant et cruel de son pays, du début des années 80, à travers celui d'une famille juive qui ressemble à la sienne. Isabelle Magnier dans Télé 7 jours, le cinéaste aborde avec sensibilité et intransigeance l'illusion du rêve américain et le racisme systémique de son pays. Il n'en cite pas moins un film d'une grâce infinie sur l'enfance et la perte de l'innocence. Nicolas Chalère dans L'Obs, sans angélisme, chaque génération d'immigrés, montre-t-il, porte en elle la tentation du repli réactionnaire, dans un drame feutré, comme murmuré à l'oreille du spectateur, peuplé d'acteurs admirables, Anne Hathaway, Jeremy Strong, et il a oublié quand même de citer Anthony Hopkins, mais bon, c'est pas grave. Les Inrecuptibles, Emily Barnett, si presque tous ces films sont associés, tous ces films à James Gray, sont associés à des quêtes intimes, Armageddon Time plonge dans la matrice, cette œuvre à clé nous révèle que derrière la figure récurrente du père, il y a eu dans la vie de Gray un grand-père aimant dont la mort a constitué une perte irréparable. Jean-Claude Raspinjas dans La Croix, cinéaste de grand talent, habitué à Cannes, James Gray a néanmoins offert une version trop lisse, trop amidonnée, pas assez rugueuse de ses années de formation et de la perte de ses illusions. En dépit de la qualité formelle de cette œuvre, le jury ne lui a même pas accordé un accessite. Fabrice Leclerc dans Paris Match, si le talent de conteur de James Gray fait encore des merveilles, la multiplication des thématiques amène parfois le film dans des impasses ou des territoires trop balisés, trop attendus. James Gray et son film Armageddon Time est donc visible au Pâté Quinconce avec version en français et version originale, et puis au cinéaste, là bien entendu, uniquement en version originale. Donc c'est un film en large partie autobiographique qui traite des inégalités sociales et raciales, de l'antisémitisme, du racisme dans l'Amérique du début des années 80. Alors on ne découvre rien, hein, on savait tout ça, ça a déjà été traité plein de fois, mais cette fois-ci c'est à travers le portrait d'un jeune garçon vivant dans le Queens avec sa famille aimante, d'origine juive, de la petite classe moyenne, classe populaire, classe moyenne, hein, voilà. Paul, donc c'est notre héros, il entre en sixième dans un collège public et dans ce récit d'apprentissage, il va être confronté à son échelle à la réalité du monde en devenant le copain d'un garçon de son âge, mais un garçon de son âge noir. Et donc Paul est sous les apparences d'un enfant bien sage, un révolté, embute souvent avec ses parents, il n'est pas facile à vivre, qui pourtant l'aime, hein, je répète, il n'y a pas de problème, il n'y a pas... Alors, bien entendu, aujourd'hui, on parlerait de violence envers enfant, puisque son père le corrige quand il fait des bêtises à coups de ceinture. Mais bon, en les années 80, c'est un truc qui passe sans problème. Hein. Bon, voilà. Donc, il est en révolte avec ses professeurs également, qui apprécient peu son insolence. Mais Paul, il rêve aussi. Il veut devenir artiste, parce qu'il a beaucoup de crayons, et donc il espère devenir aujourd'hui... devenir un grand peintre, un artiste en tous les cas. Ce qui n'est guère bien vu dans le milieu populaire duquel il est issu. Mais Paul peut compter sur son grand-père bien-aimé qui lui raconte les origines de la famille, origines qui remontent au début du XXe siècle, quand ses arrière-grands-parents ont quitté l'Ukraine, voilà, à cause de l'antisémitisme et des pogroms de l'époque. Et puis ce grand-père lui donne de précieux conseils de vie. Donc c'est un film intimiste, c'est incontestablement un beau portrait d'un jeune homme en devenir, un jeune garçon en devenir. C'est aussi une chronique familiale, mais... je suis quand même moins indulgent que l'ensemble de la critique parce que bah, tout ça, c'est pas très nouveau. Hein. Des récits d'apprentissage à la 400 coups, on en voit quand même beaucoup et celui-ci se démarque quand même peu du genre, si ce n'est, et encore, par l'évocation de son contexte. Alors, dans ce sens, c'est un film totalement pro-démocrate, hein, au sens des partis politiques américains, les démocrates et les républicains. C'est un film pro-démocrate, là, il n'y a pas de doute. Quand Reagan est élu, on le voit à la télé, la famille est consternée. Bon, bref. Un film pro-démocrate, qui se veut aussi sans doute préfigurateur de l'Amérique d'aujourd'hui, puisqu'il est question aussi du père de Donald Trump, qui est un des, enfin, je sais pas dire, un sponsor de l'école privée dans laquelle va finir par arriver ce jeune Paul. Alors, je sais pas, on dit pas sponsor, on dit donateur, généreux donateur, voilà. Alors évidemment, le message est inattaquable, hein, c'est pas bien d'être raciste, c'est sûr. Il faudrait une société plus tolérante, moins inégalitaire. Bon, mais ça, c'est clair, c'est quand même très très convenu comme message. À titre personnel, moi, j'ai pas été plus touché et ému que cela par ce film. Je dois être un sans-cœur ou pas tellement concerné par les problèmes des adolescents ou des jeunes pré-ados des années 80 aux États-Unis. Armageddon Time, bon, la critique a beaucoup aimé en grande majorité, donc c'est peut-être moi qui n'ai pas bien apprécié le film comme il convenait. Voilà, ça s'appelle Armageddon Time. Voilà, on passe à Pétaouchnok. Pétaouchnok, cette fois-ci, c'est proposé au Méga CGR. C'est également proposé au Pathé Quinconce. C'est un film français. Un film français d'un réalisateur qui s'appelle Édouard Deluc. Édouard Deluc, réalisateur scénariste, il est né en 70. Il a commencé par des courts et des moyens-métrages. Et en 2012, mariage à Mendoza avec Nicolas Duvauchel et Philippe Rebaud, qui on retrouve ici dans ce film. 2017, je vous rappelle l'avoir vu, Gauguin, voyage de Tahiti. C'était très très bien, c'est avec Vincent Cassel, Malik Zidi. 2019, Temps de chien avec Philippe Rebaud, Pascal Poli et Laure Calamy. Mais là, ça c'était diffusé sur Orange Ciné-Série. Pétaouchnok, 1h36, au cœur des Pyrénées. Deux amis ont l'idée du siècle pour se sortir de la précarité. Lancer une chevauchée fantastique à travers la montagne pour touristes en mal de nature, de silence et d'aventure. Qu'en dit la presse ? Eh bien, le Parisien déclare que la comédie montagnarde d'Édouard Deluc touche juste parce qu'elle est vraie. Cette petite leçon de vie retourne chaque galère en gag et en pirouette pour avancer. Ça, c'est de la vraie magie. Allez-y au galop ! Isabelle Magnier dans Télé 7 jours, avec des hauts, de savoureux dialogues et des bas, une mise en scène un peu monotone, ce petit théâtre en plein air d'une micro-société déglinguée par la vie, qui célèbre le collectif et l'amitié, finit par nous embarquer. Le journal du dimanche, si le tandem Pio Marmaille Philippe Rebaud fait des étincelles, ce film choral vire à la cacophonie avec une galerie de personnages trop souvent caricaturaux pour susciter l'empathie. Et enfin, Le Monde, si les deux acteurs principaux ont suffisamment d'abattage pour rendre ce spectacle avenant, l'ensemble relève à l'évidence du minimum syndical. Voilà, donc ça s'appelle Pétaouchnok, c'est proposé par le Méga CGR et le Pathé Quinconce. C'est une comédie chorale, comme on dit, hein, une comédie chorale de plus, tristement banale, à peine sauvée par son duo d'acteurs, donc Pio Marmaille, Philippe Rebaud. Tous deux incarnent deux potes, des losers, hein, qui ont l'idée de monter une petite structure de randonnée à cheval dans les Pyrénées. Pour leur première expérience, le groupe qu'ils vont accueillir va leur donner du fil à retordre, d'autant plus qu'eux-mêmes ne sont pas très 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 doués. Classique du genre, le groupe c'est une sorte de panel de personnages avec chacun ses problèmes personnels, ses petits égoïsmes, ses petites lâchetés, et bien sûr, au bout d'1h30 de l'aventure, chacun aura résolu tout cela et rentrera serein chez lui. Voilà, donc vous voyez, c'est dans le cliché absolu. Bref, un tissu complet de situations convenues. Alors certes, les acteurs sont sympathiques, les paysages pyrénéens sont magnifiques, mais est-ce suffisant ? Bah, pour moi, non. Bref, je dirais un film un peu foutraque, un film paresseux, destiné à l'oubli, faute de la moindre originalité.
Pierre. Malgré que je sache que les critiques sont plutôt bonnes, on l'a vu tout à l'heure, oui, enfin, dans l'ensemble, enfin non, pas toutes, avec parfois même des allusions à l'émission Koh-Lanta.
Oui, oui.
Bah oui, moi j'aime pas Koh-Lanta, donc c'est mal parti. Ce film ne m'a donc pas emballé, j'ai trouvé que les acteurs en faisaient beaucoup pour sauver ce scénario, que j'ai même parfois trouvé ennuyeux, bien qu'il dure 1h30, bah oui. Alors certes, il y a des images des Pyrénées-Orientales, ce parfum d'aventure au milieu de la nature, parfois hostile, voire la rencontre avec un ours, mais cette histoire rocambolesque m'a laissé sur ma faim et ne restera sûrement pas dans les annales de mes souvenirs cinématographiques.
Nous sommes bien d'accord là-dessus.
Oui, on est d'accord.
Ça s'appelle Pétaouchnok et c'est possible de le voir au Méga CGR et au Pâté Quinconce. Charlotte, c'est un film d'animation. Alors celui-ci, on ne peut le voir qu'au Colisée. Et attention, il n'y a qu'une seule séance par jour à 13h30. C'est un film de Éric Varin et Tahir Rana. Éric Varin et Tahir Rana. C'est pour Tahir Rana son premier long métrage. Pour Éric Varin, c'est son deuxième. Il avait réalisé en 2016 Ballerina, un dessin animé co-réalisé avec Eric Sommer. Là, Charlotte, ça dure 1h32. Charlotte Salomon est une jeune peintre juive allemande dont le destin bascule à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Face au tourbillon de l'histoire et à la révélation d'un secret de famille, seul un acte extraordinaire pourra la sauver. Elle entame alors l'œuvre de sa vie. Je répète, c'est un film d'animation, hein. Alors, qu'en pense la presse ? Eh bien, Olivier De Bruyne dans Les Échos parle d'un hommage animé, inspiré, émouvant et nécessaire. Sophie Grassin dans L'Obs, l'animation opte pour une ligne claire, très, trop apaisée pour son sujet. Le film convainc davantage dès que ces gouaches d'un expressionnisme fou naissent sous nos yeux. Et l'histoire mérite d'être racontée, y compris aux plus jeunes, puisque la bête n'est pas morte. Alors la bête, allusion au nazisme, bien entendu. Le Parisien, l'histoire de Charlotte Salomon s'avère bouleversante, mais le choix d'un graphisme austère et peu inspiré gâche la transcription à l'écran, d'autant que le film souffre de longueur. La revue Positif, malheureusement le scénario manque d'un tel pouvoir d'évocation, le trait des corps est lisse et banal, rythmé par une musique sirupeuse, tout est martelé, dommage. Thierry Chaise en première, une histoire aussi tragique que passionnante, mais souffrant d'une animation trop sage qui aurait gagné à jouer davantage avec les dessins de celle qui avait documenté ce qu'elle avait traversé dans une œuvre majeure, Leben Oder Theater, publié bien après sa mort. Voilà, donc ça s'appelle Charlotte, c'est un film d'animation. On peut le voir au Colisée avec une seule séance par jour à 13h30. Allez, petite pause musicale, le titre Armageddon Time, eh bien, c'est aussi un titre d'un groupe qui s'appelle Les Clash. Et là, c'est pas tout à fait Armageddon Time, c'est Armagideon Time, qu'on écoute sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans.
Get no supper tonight. A lot of people won't get no justice tonight. And the battle is getting hard in this Irish Armageddon time. People running and hiding tonight. A lot of people won't get no justice tonight. Remember to kick it over. No one will guide you long in time. Thank you.
gonna get no supper tonight. A lot of people sitting down by the light. A lot of people wanna get no supper tonight.
The Clash, Armageddon Time, et ben c'est un titre que l'on entend là aussi à plusieurs reprises dans le film Armageddon Time de James Gray dont on vient de parler. Couleur de l'incendie. Couleur de l'incendie, c'est un film français de Clovis Cornillac. Mais oui, Clovis Cornillac, l'acteur, il est aussi réalisateur et scénariste. Il avait réalisé en 2014 un premier film un peu beaucoup aveuglément avec lui-même et Mélanie Dernier, qui était pas mal du tout d'ailleurs. 2017, Belle et Sébastien 3, le dernier chapitre, dans lequel il jouait le méchant, aux côtés de Checky Cario, qui lui jouait le grand-père. Et puis, on l'a vu récemment réaliser, c'était cet été, C'est magnifique, avec Alice Paul et lui-même. En tant qu'acteur, les derniers films où on l'a vu, eh bien, il y avait Camelot, par exemple, Les Vétos, Les Chatouilles, L'Aventure des Marguerites, Brice 3, puisqu'il est un des héros de Brice de Nice. Voilà. Donc, son film Couleur de l'incendie dure 2h16, et on peut le voir au Pâté Quinconce et au Méga CGR. Février 1927, après le décès de Marcel Péricourt, sa fille Madeleine doit prendre la tête de l'empire financier dont elle est l'héritière. Mais elle a un fils, Paul, qui d'un geste inattendu et tragique va la placer sur le chemin de la ruine et du déclassement. Face à l'adversité des hommes, à la corruption de son milieu et à l'ambition de son entourage, Madeleine devra mettre tout en œuvre pour survivre et reconstruire sa vie. Tâche d'autant plus difficile dans une France qui observe, impuissante, les premières couleurs de l'incendie qui va ravager l'Europe, d'où le titre. West France parle d'un film qui est du grand et beau spectacle. Le Parisien, un récit très ambitieux, long, mais mené comme une passionnante partie d'échecs et porté par un casting impeccable. Oui, j'ai pas cité le casting, il y a Léa Drucker, Benoît Poulvord, Alice Izaz, Olivier Gourmet et Clovis Cornillac. Xavier Lerper dans l'Obs, c'est plus sage, mais pas moins réussi dans l'origine du cinéma populaire, grâce à la générosité de la mise en scène, au goût pour le spectacle et à l'amour des actrices et acteurs. Alors quand il dit c'est plus sage, c'est parce qu'il fait référence à Au revoir là-haut, dont le film est censé être la suite, puisque c'est Pierre Lemaitre qui a réalisé, enfin qui avait écrit une trilogie, et là, c'est le deuxième opus de cette trilogie. Thierry Chasse en première. Les rebondissements, ils sont parfaitement orchestrés, la mise en scène soignée et discrète, loin du tumultueux geste inaugural, l'interprétation impeccable, mission accomplie. Julien Barcillon, Télé 7 jours, un grand divertissement populaire, volontiers académique, mais dont l'ambition et la patte stylée en font un spectacle hautement recommandable pour toute la famille. Céline Roudin dans La Croix, Léa Drucker brille dans cette adaptation efficace, mais sans relief, du deuxième volet de la trilogie de Pierre Lemaitre. Théo Ribeton, lui, il a vraiment pas aimé. Les mêmes costumes, les mêmes dorures, les mêmes tacos de location, les mêmes surcouches de maquillage, les mêmes mouvements de grue. Le récit défile, les acteurs jouent, les violons violonnent, les accessoires accessoirise et tout ce que l'on voit, c'est un cinéma mort, une espèce de grand barnum clinquant et inerte que l'on a vu mille fois. Alors, je vais pas être aussi sévère, même si je n'ai pas énormément apprécié ce film. Le film m'a fait penser, moi, à ces romans feuilletons populaires du 19e siècle, avec ces personnages à qui il arrive plein de malheurs, ces histoires avec moult rebondissements, coups de théâtre tellement fréquents que cela en devient complètement invraisemblable et perd toute crédibilité. Alors ici, il s'agit de l'histoire de Madeleine Péricourt, qui, à la mort de son père, hérite de sa fortune accumulée dans la banque, et qui, le même jour, voit son fils de 10 ans commettre une inexplicable tentative de suicide. On comprendra pourquoi au cours du film. Très vite, trahi par quasiment tout son entourage et les gens en qui il avait confiance, qui s'avèrent tous être ambitieux, mais surtout tous des corrompus, intéressés ou pervers, trahie par tous ces gens-là, elle se retrouve ruinée et n'a plus qu'un objectif, se venger. L'action se passant entre 1927 et 1934, elle se déroule dans le contexte de la grande crise économique de l'époque et de l'arrivée d'Hitler au pouvoir en Allemagne. Alors, sur le strict plan de la réalisation, c'est après un très beau plan séquence de départ, ça il faut reconnaître, il y a un très beau plan séquence de départ, c'est très très classique, autrement très luxueux même en termes de direction artistique. Pour ce qui est de l'histoire, Pierre Lemaitre ne peut pas dire que son roman a été trahi, puisqu'il en est lui-même l'adaptateur et scénariste. Donc, de ce côté-là, pas de trahison. Alors, est-ce du second degré ? Toujours est-il que cette histoire est rocambolesque, mais vraiment rocambolesque au sens rocambole, un de ces, justement, romans feuilletons du 19e siècle, que ces personnages sont à la limite de la caricature. En tout cas, il n'y a aucune subtilité dans leur manière d'agir. Et puis, par moments, c'est tellement gros qu'on arrive à sourire devant autant de maladresse. Exemple, un personnage de cantatrice joué par Fanny Ardant, qui est qui frôle le ridicule, ou celui de l'oncle joué par Olivier Gourmet, qui n'a qu'une obsession, marier ses filles, et pour cela avoir beaucoup d'argent. Il y a un gros casting, hein, effectivement, et alors, bon, voilà. Alors, d'aucuns y verront peut-être un film féministe, puisque l'héroïne est une femme qui s'émancipe, ou alors, ouais, chaque fois qu'il y a une femme dans un film, maintenant, ça devient un film féministe. Bon, alors, d'accord, bon, ça se suit, hein, sans ennui, hein, parce qu'il se passe tellement de choses, il y a tellement de rebondissements, mais... C'est quand même décevant, à moins, je le répète, que ce soit du second degré qu'il ne faille pas prendre ça aussi au sérieux que ça. Mais je pense qu'il faut le prendre au sérieux, moi. Mais enfin bon, j'étais déçu parce que j'avais beaucoup aimé Au revoir là-haut, j'avais lu le roman, j'avais pas lu la suite, et bon, là c'est... bon, bof. Mais c'est du cinéma très populaire, comme l'étaient les feuilletons du 19e siècle, donc les romans de Dumas, les Mystères de Paris, des choses dans ce genre-là, voilà. Donc, Couleur de l'incendie, c'est au Méga CGR et au Pâte Quinconce. Pacifiction, Tourment sur les îles, là, cette fois-ci, c'est uniquement au cinéaste, et attention, le film dure 2h45, deux séances par jour au cinéaste pour ce film de Albert Serra. Albert Serra, c'est un réalisateur, scénariste, producteur espagnol, né en 75. En 2006, il avait réalisé « Honor de Cavalleria ». 2008, « Le chant des oiseaux ». 2013, « Histoire de ma mort ». 2016, « La mort de Louis XVI » avec Jean-Pierre Léo. Et 2019, « Liberté » avec Helmut Berger. Alors, pacifiction, tombant sur les îles, sur l'île de Tahiti, en Polynésie française, le haut-commissaire de la République, De Roller, représentant de l'État français, est un homme de calcul aux manières parfaites. Dans les réceptions officielles, comme les établissements interlopes, il prend constamment le pouls d'une population locale, d'où la colère peut émerger à tout moment. D'autant plus qu'une rumeur se fait insistante. On aurait aperçu un sous-marin dont la présence fantomatique annoncerait une reprise des essais nucléaires français. Bon, alors qu'en pense la presse? Eh bien, Jacques Mandelbaum dans Le Monde. Entre le flamboiement des cieux et le miroitement turquoise de la mer, le monsieur Homé préfectoral exsude dans l'enchaînement flaubertien des vues pittoresques et d'une puissance qui se délite. Chef-d'œuvre, déclare Jacques Mandelbaum. Sandra Onana dans Libération est dans la même veine, un chef-d'œuvre stupéfiant. Xavier Le Harper en rajoute une couche dans L'Obs. Dans le rôle de ce colosse de sable, Benoît Magimel, en auguste privé de trône, est au-delà de tout éloge. Thierry Chaise, dans Ouest France, la composition magistrale de Benoît Magimel aurait mérité un prix cannois. Thomas Borès, dans Première du cinéma moderne, qui déjoue les figures imposées des scénarios illustrés, immense comme son acteur principal. Eh ben, dis donc. Alexis Campion, le journal du dimanche, c'est beau, agréablement énigmatique, mise en scène avec élégance, au risque de paraître trop long, pas sans fond, mais pas si fou. Le Figaro, Étienne Sorin, entre thriller politique à zéro de tension et carte postale sans destinataire, la meilleure blague du dernier festival de Cannes provoque 2h43 de rire involontaire ou d'ennui abyssal. Vous voyez que les critiques, ça peut être quand même tout l'un ou tout l'autre, il y en a qui parlent de chef-d'œuvre et là, d'un film qui pourrait être de 2h43 de rire involontaire ou d'ennui abyssal. Louise Dumas, dans Positif. Pacifiction aurait pu devenir un grand film sur le manque de lisibilité du monde contemporain, mais paresseusement, Albert Serra renonce assez vite à développer une réelle intrigue ou à adopter une véritable perspective sur des sujets qu'il ne fait qu'effleurer. Alors, moi, je serais bien allé voir Pacifiction s'il avait fait 1h30, mais 2h45.
Comme moi, oui.
Sachant qu'une partie des critiques dit qu'on s'ennuie, j'ai pas 2h43 à m'ennuyer. C'est plus possible à mon âge. Si j'avais 20 ans, peut-être, mais là, c'est plus possible. Voilà, ça s'appelle Pacifiction, c'est au cinéaste, tout comme Riposte féministe. Alors, Riposte féministe, c'est au cinéaste, bien sûr. C'est un documentaire, il y a une séance par jour, sauf aujourd'hui. Sinon, les autres jours, il y a une séance pour ce film de Marie Pérennès et Simon Depardon. Marie Pérennès est la réalisatrice, Simon Depardon est réalisateur, directeur de la photo et cadreur sur ce film. Et c'est leur premier long-métrage, durée 1h27. Élise à Brest, Alexia à Saint-Étienne, Cécile à Compiègne ou encore Gilles à Marseille. Elles sont des milliers de jeunes femmes à dénoncer les violences sexistes, le harcèlement de rue et les remarques machistes qu'elles subissent au quotidien. La nuit, armées de feuilles blanches et de peintures noires, elles collent des messages de soutien aux victimes et des slogans contre les féminicides. Certaines sont féministes de longue date, d'autres n'ont jamais milité, mais toutes se révoltent contre ces violences qui ont trop souvent bouleversé leur vie. Le sexisme est partout, elles aussi. Alors, Le Parisien. Un documentaire très éclairant sur cette nouvelle génération de femmes qui se définissent comme fortes, fières, féministes, radicales et en colère. Maroussia Dubreuil dans Marie-Claire, présentée au dernier festival de Cannes, ce documentaire enthousiasmant donne un visage donne un visage à ces militantes de l'ombre qui dénoncent les féminicides et les violences sexistes. Guy Matodicino dans Télérama. Fougueuse et esthétique, cette riposte est aussi un beau geste de cinéma par son parti pris judicieux de filmer les sessions de collage en plan fixe. Barbara Théal, le journal du dimanche à Lyon, Paris, Brest ou Marseille, on suit et surtout on écoute les motivations politiques de ces militantes décomplexées à l'engagement passionné et nécessaire. Marie-Lou Duponchel, les Inrecuptibles, le riposte féministe est donc important parce que, outre l'inscription du mouvement dans notre histoire contemporaine, il permet surtout de se demander où en est le féminisme aujourd'hui, d'écouter, de récolter la parole de ces filles et de ces femmes, de leur offrir l'espace de ce long métrage pour les laisser dire leur expérience, et ce n'est pas rien. Muriel Joudé, dans Le Monde. En ne voulant rien complexifier, en évitant les sujets qui fâchent et la conflictualité propre à tout mouvement, riposte féministe prend finalement des allures de spot publicitaire qui érige hâtivement une radicalité soft en héroïsme. Voilà, je pourrais préciser que c'était Muriel Le, que c'était une femme qui avait fait cette critique négative sur le film. Bon, riposte féministe, je ne suis pas allé le voir. Pierre non plus.
Moi non plus.
Non, une séance par jour, sauf aujourd'hui. Les Repentis. Alors, Les Repentis, c'est encore au cinéma, c'est encore plus maltraité, si on peut dire, puisque Les Repentis, il n'y a même pas une séance par jour, il n'y en a plus qu'une lundi et une mardi. Il n'y en a pas ni vendredi, ni samedi, ni dimanche. Ce film est un film de Issiar Bolein, c'est une actrice, réalisatrice espagnole, née en 67. Alors, bon, sa filmographie, je ne vais pas tous vous les citer, les films, parce que certains sont inédits en France. Mais en 2003, il y avait Ne dis rien, avec Luis Tosar. 2007, Matahari. 2010, Même la pluie, avec Gaël Garcia Bernal et Luis Tosar. 2015, L'Olivier. 2019, Yuli. Voilà, donc, et les autres, soit inédits, soit directement en VOD. Les Repentis, donc, 1h56. Titre original, Mechabel. L'histoire réelle de Mechabel Lasa, la veuve de Juan María Jauregui, un homme politique assassiné par l'organisation terroriste ETA en 2000. 11 ans plus tard, l'un des auteurs du crime qui purge sa peine en prison demande à la rencontrer après avoir rompu ses liens avec le groupe terroriste. Donc c'est un film qui est un film de fiction quand même. Alors, La Croix, Jean-Claude Rasbienjas, couronné de 3 Goya. Alors, les Goya, c'est l'équivalent des Césars en Espagne. Donc, celui de la meilleure interprète féminine attribuée à Blanca Portillo. Ce film bouleversant décrit la volonté de dialogue de certains terroristes de l'ETA avec les proches des victimes et comment cette initiative a préparé le chemin d'une paix jusque-là introuvable. Le journal du dimanche, Baptiste Thion, un récit subtil et brillamment incarné. Thierry Chaise dans Ouest France, un film passionnant sur la notion de pardon. Et Cahiers du cinéma, Vincent Maloza. Si le lent rapprochement opéré entre victime et bourreau a quelque chose d'un peu artificiel et fabriqué, une sorte de film dossier sur le thème vérité et réconciliation, l'écriture à la fois rêche, ample et romanesque de Bolein sauve assez subtilement Les Repentis de cet horizon de fable cérémonieuse. Voilà, ça s'appelle Les Repentis. Si vous voulez le voir, il va falloir maintenant attendre lundi ou mardi, puisque le film n'est pas proposé avant. Voilà, petite pause musicale. Alors là, il n'y a pas de problème, Pierre y connaît. I Feel Love, Donna Summer.
Au revoir, oui.
Hein, c'est les années disco.
Grand tube.
Et on entend ça dans le film Trois nuits par semaine, dont on parlera juste après sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. I Feel Love, Donna Summer. On vous donne pas la version longue parce que ça dure plus de 10
minutes. Ah oui, ça dure longtemps.
Hein. Oui, donc c'est un titre que l'on entend dans le film Trois nuits par semaine. Et bien justement, c'est l'occasion de parler de Trois nuits par semaine tout de suite. C'est un film de Laurent Gouello. C'est son premier long métrage en tant que réalisateur et scénariste. Auparavant, il a été assistant réalisateur et il a à son actif 2-3 courts métrages. 1h43 pour ce film proposé par les cinéastes avec trois nuits par semaine, une ou deux séances par jour. Baptiste, 29 ans, est en couple avec Samia quand il fait la rencontre de Cookie Cunty, une jeune drag queen de la nuit parisienne. Poussé par l'idée d'un projet photo avec elle, il s'immerge dans un univers dont il ignore tout et découvre Quentin, le jeune homme derrière la drag queen. La rédaction du Parisien parle d'un film touchant et attachant. Sophie Grassin dans l'Obs pour son premier long-métrage à la fois ample et doux. Florent Gouëllou, lui-même drague sous le nom de Javel Habibi, entraîne le spectateur en coulisses, pense à sueur froide, bouscule les normes, brasse les genres, film social, road movie, adresse un clin d'œil à Titanic et aborde la question de la cohabitation. Le journal du dimanche, tour à tour drôle et émouvante, cette histoire d'amour flamboyante et sensible, faisant l'éloge de la différence, séduit par sa sincérité, ses interprètes n'y sont pas pour rien. Ludovic Béot, Les Inrecuptibles, si le film décrit avec précision la double facette de la vie d'une drag queen, la scène colorée et festive, mais également ses coulisses moins glamour, l'homophobie, les longues séances de maquillage, le film échoue à force d'être trop sage et éducatif, à retranscrire par de véritables choix de mise en scène toute la force subversive, l'audace politique et l'humour mordant de ses dragues. Marussia Dubreuil, Le Monde, elle n'était pas en forme, Marussia Dubreuil, elle a détesté presque tout ce qu'elle a vu cette semaine. Finalement, il reste le goût d'une sitcom qui tourne autour des sentiments sous une grosse boule à facettes. Voilà, trois nuits par semaine, je suis allé voir trois nuits par semaine, moi. Trois nuits par semaine, Baptiste, il est manager à la FNAC et photographe amateur. Il vit avec Samia depuis plusieurs années. Et Samia, c'est une infirmière très impliquée dans l'aide contre les MST et le SIDA chez les travailleurs du sexe, travailleuses du sexe. C'est à l'occasion d'une maraude de Samia que Baptiste rencontre Cookie Cunty, une drag queen. Alors d'abord, il est fasciné par elle et ses consoeurs et il envisage de faire un reportage photo sur ce milieu étrange. Mais ce qu'il n'avait pas prévu, c'est de tomber amoureux de Cookie et surtout de découvrir que derrière Cookie, il y a Quentin, un jeune homme homosexuel. Voilà. La cohabitation Cookie-Quentin ne va pas aller sans poser problème à leur relation. Voilà, et donc c'est un film avant tout sur le milieu drag queen. C'est le film qui prend la forme d'une sorte de comédie romantique, dont il emprunte d'ailleurs tous les codes. Vraiment, c'est une comédie romantique chez les drag queens, en quelque sorte. Le véritable intérêt du film est de nous faire pénétrer ce milieu, un milieu, reconnaissons-le, marginal. Il n'y a quand même pas beaucoup de drag queens. Moi, je n'en connais pas personnellement, mais bon, je ne connais pas grand-chose non plus. Il nous fait pénétrer dans ce milieu marginal. Il nous fait découvrir les shows de ces drag queens, les personnages qui constituent ce milieu avec leurs problématiques, les préjugés dont ils sont l'objet. Donc ça, c'est le côté le plus intéressant du film. Je dirais le côté quasi documentaire du film, bien informé, puisque le réalisateur lui-même est drag queen et qu'il fait une petite apparition dans le film sous son nom de drag queen, Javel Habibi. Et donc le film se présente comme une romance dans cet univers particulier où chacun vit sa vie comme il peut, entre moments festifs et d'autres plus durs, quand on doit affronter notamment l'hostilité des autres. Voilà. Le film montre aussi parfaitement la place prise par le métier dans la vie de Quentin, l'incompréhension également des gens qui ne seront pas concernés par cette passion, la passion de drag queen avec tout ce que cela comporte comme séance de maquillage, d'habillement, de pose de postiche et une vie bien banale à côté, la vie bien banale de tout le monde, voilà, à côté des drag queens. Voilà. Bon, c'est un film qu'on peut voir, ne serait-ce que pour comprendre un petit peu ce milieu. Moi, c'est un milieu qui me fascine absolument pas. Mais bon, après tout, pourquoi pas. C'est, ma foi. Le film n'est pas très long, il fait 1h36, donc on peut aller voir ça. Par contre, Black Panther, Wakanda Forever, là, gare à vous, ça dure 2h42. La punition, enfin, je dis la punition, j'ai pas vu le film, donc c'est peut-être pas une punition. C'est un film de Ryan Coogler. Ryan Coogler, c'est un réalisateur, scénariste, producteur américain né en 86. 2013, Fruitvale Station, avec Michael B. Jordan. 2015, Creed, l'héritage de Rocky Balboa, avec Michael B. Jordan et Sylvester Stallone. Et 2018, le premier Black Panther, avec Chadwick Boseman. Michael B. Jordan et Lupita Nyong'o. Alors, Black Panther Wakanda Forever, c'est tout. Méga CGR, Pathé Quinconce, Écolisée, il y a de la VO partout. À vous de vous renseigner, mais on peut le voir en VO ou en VF dans les trois cinémas. Il y a les cinémas, on peut le voir en stall Ice et compagnie, au Méga CGR, par exemple. Voilà. Donc, la reine Raymonda Shuri, M'Baku, Okoy et les Dora Milaje luttent pour protéger leur nation des ingérences d'autres puissances mondiales après la mort du roi T'Challa. Alors que le peuple s'efforce d'aller de l'avant, nos héros vont devoir s'unir et compter sur l'aide de la mercenaire Nakia et d'Everett Ross pour faire entrer le royaume de Wakanda dans une nouvelle ère. Mais une terrible menace surgit d'un royaume caché au plus profond des océans, Talokan. Bon, c'est très très ésotérique pour moi ça, mais bon. Le Parisien, débordant d'idées disséminées sur un ton assez grave, Wakanda Forever confirme le talent de son réalisateur Ryan Coogler, très doué pour créer des univers délirants qu'il déroule à travers un récit réfléchi dont les enjeux pourraient s'ancrer dans notre actualité. Anaïs Bernot dans West France, tout ce qui fonctionnait dans le premier volet est là, en mieux. Cécile Murie dans Télérama, Black Panther prouve une fois de plus sa supériorité sur la plupart des sagas de l'univers Marvel. Étienne Sorin dans Le Figaro, après la disparition de son acteur principal Chadwick Boseman, le second volet de Black Panther reste une production Marvel au cahier des charges conventionnelles. Sans plus. Emmanuel Spalacenta dans Cinématiseur, peu engagé dans l'affrontement au cœur du film, voire un peu désabusé par une impression de copier-coller, on est pourtant hypnotisé par chacune des apparitions de Namor et de ses combattants. L'Obs, Nicolas Schaller, la machine Marvel, même au service de la fierté noire, reste tragiquement cantonnée à son cahier des charges entre tragédie guerrière pour les nuls et scènes d'action titanesques sans intérêt. Et ça dure le temps d'Il était une fois dans l'Ouest. Oui, 2h40. Libération, Olivier Lam, sans son acteur principal, Chadwick Boseman, décédé prématurément, ce médiocre et laborieux deuxième opus, où l'état de Wakanda combat une nation sous-marine, s'embourbe dans un marécage tant idéologique que narratif. 2h45, c'est au-dessus de mes forces pour ce genre de film. Je ne suis pas allé le voir, j'attends qu'il passe sur une chaîne cryptée ou pas cryptée pour le découvrir en 2-3 épisodes, comme j'avais fait Black Panther. Le premier, j'avais bien aimé d'ailleurs, je dois reconnaître.
Bah, c'est pas mon genre de film, je pense. C'est trop long.
C'est pas la peine que tu t'infliges ça.
Oui.
Dernier film à l'affiche cette semaine dans les nouveautés, Les Lendemains de Veille. C'est proposé par le Colisée, avec en général une ou deux séances par jour. C'est un film de Loïc Paillard. Loïc Paillard, je crois que c'est son premier film, parce que je n'allais pas trouver d'autres en cherchant. Ça dure 1h25. À 20 ans, ils avaient la vie devant eux et se rêvent un peu fous de vivre ensemble, comme une famille. Après 2 ans de cohabitation dans une grande maison, chacun avait pris un chemin différent. Ils se sont perdus de vue depuis plus de 10 ans maintenant, et le destin a finalement décidé de les réunir. Voilà. Bon, ça rappelle un petit peu la chanson de Patrick Bruel. Place des grands hommes. Le Figaro, Loïc Paillard signe une sorte de petit mouchoir nouvelle génération, un surprenant film de copains, plein de tendresse et d'humour. Guillemette Odissino Télérama, solaire, joliment désordonné, le film est porté par beaucoup de nouveaux visages que l'on a envie de revoir. Le Monde, un film de bande qui soigne son storytelling. Le legs ne peut être enregistré qu'à la condition d'une acceptation à l'unanimité. Sa typologie, un intello qui a épousé New York, un dragueur infantile, un acteur au cœur meurtri, la fille qui avait planté le groupe et son ambiance assez glauque. Autant dire que la vie manque. Je ne l'ai pas vu, 1h25, j'aurais pu éventuellement, j'avais la possibilité, puis je ne me suis pas décidé à aller voir Les Lendemains de Veille, que l'on peut voir malgré tout au Colisée avec une ou deux séances par jour. Avant de nous annoncer les nombreux films à l'affiche la semaine prochaine, allez, un petit plaisir. Un titre que l'on entend dans le film Armageddon Time, c'est de la bossa nova, How Insensitive, Wes Montgomery, Carlos Jobim, Antonio Carlos Jobim, c'est ça, absolument. Et ça, c'est sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans. Thank you. Et c'est sur ces notes de Wes Montgomery et Carlos Jobim, How Insensitive, que l'on entend dans Armageddon Time, qu'on va vous annoncer les films à l'affiche la semaine prochaine. Et il y a une avant-première, déjà si vous écoutez en direct, c'est samedi, à 18h au cinéaste. Le réalisateur Bertrand Bonello va passer la soirée avec vous, puisque à 18h, il vient présenter à l'avant-première son film Coma, qui sortira la semaine prochaine, et à 20h45, une carte blanche, où il présentera le film de David Cronenberg, Chromosome 3. Voilà, hein, donc c'est samedi 12 à 18h.
Demain.
Donc demain au cinéaste. Les autres films à l'affiche la semaine prochaine. Toujours au cinéaste, Les Amandiers. Les Amandiers, c'est un film sur le théâtre des Amandiers et sa création par Patrice Chéreau. Les Femmes du Square. Moi, je l'ai déjà vu. Les Femmes du Square, c'est très sympa comme film. Franchement, ça dure 1h45. Mais c'est très sympa sur les nounous à Paris qui gardent les enfants des bourgeois. C'est pas mal foutu, c'est assez drôle. Ensuite, il y aura certainement Les Engagés, un film d'Émilie Frèche. Reste un peu de Gad Elmaleh, un film très autobiographique, semble-t-il. Et puis, alors, je n'en suis pas sûr et certain, mais je pense qu'il devrait y avoir aussi Plus que jamais, ça c'est presque certain au cinéaste, le dernier film de Gaspard Huliel, je dis le dernier, l'ultime, puisque Gaspard Huliel est décédé depuis. Il y aura peut-être aussi une comédie romantique, un film avec Alex Lutz et Goldshifté et Farahani. Peut-être aussi La Maison, un film avec Anna Girardot, Horatica, mais ça, j'en ai pas du tout la certitude. Donc, voilà les films de la semaine prochaine. Je répète, Coma à l'avant-première, mais ça sortira aussi mercredi. Les Amandiers, Les Femmes du Square, Plus que jamais. Reste un peu Les Engagés et peut-être d'autres, mais ça, je n'en suis absolument pas certain. Cette semaine, on ne vous recommande pas franchement Peter Ushnok.
Bah, pas vraiment.
Pas vraiment. Armageddon Time, moi, j'en suis pas fou.
Peut-être trois nuits par semaine, éventuellement.
Oui, un petit film, trois nuits par semaine. Bon, voilà. Mais si vous aimez les gros blockbusters Marvel, il y a Black Panther, ça c'est sûr et certain.
Oui.
Voilà, sur ces bonnes paroles, on va vous souhaiter une excellente semaine cinématographique. Et nous, on va se retrouver la semaine prochaine sur Radio Alpa, 107.3 FM Le Mans, dans Clap. Voilà.
Au revoir.
Au revoir.